Ce soir-là, ils furent quelques-uns à se rendre au casino. L'établissement s'était mis au goût du jour en se rebaptisant le CAS. Ainsi l'avaient décidé les derniers propriétaires, les Partouches, sans trop d'égard pour Proust, qui y jouait lui-même au baccarat. Si c'est devant l'édifice que le héros rencontre Charlus, il n'aurait pas fallu risquer de miser gros sur l'allusion au personnage dans le nom du club, le baron. Fabrice, lui, s'assit devant le bureau de sa chambre Marcel Proust et se mit à écrire. Le mardi matin, une fiche fut remise à chaque personnage entrant dans la salle Marcel Proust du Grand Hôtel de Cabourg. « Monsieur, soyez le bienvenu à la représentation d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Je suis honoré de votre présence. L'hommage que je rends à Marcel Proust exige une concentration à laquelle vous pouvez participer. Soyez assez aimable pour éteindre vos téléphones portables, pour éviter de feuilleter l'ouvrage et de parler pendant son interprétation, pour ne pas user d'appareils qui font du bruit, pour éviter des mouvements brusques, pour vous montrer discret si vous devez vous déplacer. Croyez bien que je regrette de ne pouvoir répondre à aucune sollicitation avant et après la séance, mais je dois réserver énergie et réflexion à ma tâche. Fabrice Pelletier. » Imprimé par les soins de l'établissement, le papier était en deux versions, une exigence de son auteur, une au masculin, une au féminin, avec « Madame, bienvenue E, discrète. » C'est par une lettre, signée Gilberte, que la séance commença. Comme la veille, Fabrice avait pris place dans un fauteuil en velours frappé, revêtu d'un appui-tête au crochet tel qu'il en existe chez Tante Léonie à Combray. Il n'y avait pas d'autres meubles. La pièce, dans la majesté qu'aiment les hôtels de luxe, n'avait pas besoin de se déguiser. La matinée avançait, languissante, alentie, au rythme de la prose proustienne que Fabrice avivait. Il ne mettait aucune liaison, respectait la ponctuation, articulait précisément mais sans ostentation. Il scandait, déclamait, psalmodiait. Il rendait la monotonie musicale. Les phrases surgissaient tranquillement et chacun goûtait un style qui n'avait plus cours. Le récitant prenait plaisir à dire des mots tels que « Lucé, je sus que j'en eusse pris tout de même, car en admettant que j'eusse recouvré un instant le discernement du présent, cela ne m'eût pas rendu le souvenir du passé et la prévision de l'avenir. » Plus personne n'écrivait ainsi, et encore moins ne parlait. Ces « U » offraient une sonorité délicieuse et participait à l'impression des spectateurs de boire eux-mêmes le thé et de manger le cake offert par la fille de Swann, dont le parfum semblait flotter au-dessus d'eux. Magie de Proust, adresse de Fabrice. On retrouvait Madame Blatin, la lectrice des débats, ressemblant au Savonarole de Fra Bartolomeo. À Cabourg, comme cela avait été initié à Hyères-Combray, la projection des œuvres d'art citées dans la recherche se poursuivait sur le mur du fond. On imaginait aisément, sous ce visage ingrat et sévère, celle qui traite un Cingalais de négro et s'entend répondre « chameau ». Farid, qui avait des lettres et pas seulement en littérature, se rappela un classique de Snoop Dogg, « Fushils my nils », contraction de « For sure, my nigger ». Bien sûr, mon négro, bien sûr, mon pote. Il l'évoqua devant Fabrice à la fin de la séance. Et anticipons, quand ce dernier se l'appropria avec appétit, il laissa son jeune ami Baba. Au fil des pages, on s'initiait au comportement des swans. Ainsi, du goût pour Odette de terme des bons voisins de la Tamise, s'appropriant lunch, meeting, Christmas, patronizing, qui dans le texte avait droit à l'italique, pushing, agrémentez-lui de guillemets. À la pause du déjeuner, ce dernier mot « pushing » suscita des échanges passionnés entre les spectateurs. Il sort de la bouche d'Odette à propos de Madame de Cambremer, soupçonnée d'avoir été folle de Swann. « Je la crois très pushing. » Il s'agissait de trouver la traduction parfaite, tous s'accordant à considérer le mot comme péjoratif, puisqu'elle ajoute ce qui m'étonne d'une femme intelligente. Les propositions tournaient autour de « qui impose sa présence »,« importune »,« fâcheuse »,« gêneuse »,« insistante », »,« accrocheuse », »,« enquiquineuse ». Tous se réjouissaient de la richesse du français, mais ils n'avaient encore rien entendu. L'offre la plus osée fut « rasoir », jusqu'à ce que des lycéens des Hauts-de-Seine qui avaient sympathisé avec le petit noyau de Farid se mêlassent à l'échange en sa compagnie. Et ça fusa. D'abord soft, peau de colle, crampon, casse-pied, puis plus hard, casse-bonbon, casse-cul, chieuse, emmerdeuse, mouche à merde. Et c'est une fille en classe de prépa, désireuse d'intégrer Normal Sup, qui ravit la mise avec lavement. Et, du jour au lendemain, pushing, dans cette acception-là, entra dans le vocabulaire Jones. Mais vous tournez bien vite la page, remarqua un proustologue jusque-là muet. Au début de la matinée, nous avons entendu parler, certes, de façon quasi subliminale d'Albertine, future héroïne, et Gilberte l'a qualifiée de faste. Pour être très précis, elle a estimé, concernant cet élève qu'elle a vu seulement passer, et qui, au passage, ne lui plaît pas. Elle sera sûrement très faste, mais en attendant, elle a une drôle de touche. Comment le traduiriez-vous ? L'assemblée, sans idée, lui retourna la question. Il proposa alors de mœurs légères, dissolue, noceuse, sens qui viennent après, rapide. Évidemment inapproprié ici. L'érudite anglophone n'avait pas trop de mérite. Médecin, Patrick Dickinson était un sujet de sa très gracieuse majesté installée à Versailles depuis 20 ans. Il était venu à Proust via sa spécialité. Il s'était imposé dans le traitement des rhinopharyngites récidivantes et s'était épris de l'homme et de son œuvre, pas que de ses essoufflements.